Les Canucks de Vancouver sont meneurs de leur division. Coudon, c'est le monde à l'envers. Patrick Laine a donné tout un show en Finlande aujourd'hui avec 3 buts dans une victoire contre les Panthers. Et le Canadien reçoit les champions de la Coupe Stanley ce soir au Centre Bell.
The drop of the puck, and it's over. The Washington Capitals are Stanley Cup champions for 2018.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 1973. J'espère que vous allez bien. Vous avez entendu dans l'extrait sonore qu'on vient de vous présenter, c'était les derniers moments de cette série qui s'est terminée en 5 matchs au printemps dernier. La victoire des Capitals de Washington, première victoire de la Coupe Stanley dans leur histoire. Et ça laisse des traces. Ça fait en sorte que maintenant, on n'a plus le droit de dire d'Alexander Ovechkin, ouais, il n'est pas pire, là, il score des buts en saison, mais quand on arrive en série, il n'est pas là pantoute. Mais non, ils ont gagné la coupe. C'est un sport d'équipe. Ovechkin a été bon dans sa carrière, mais il a toujours eu l'étiquette du choker parce que son équipe n'avait pas réussi une seule fois à franchir la deuxième ronde et accéder à la troisième ronde depuis qu'il était dans la Ligue nationale de hockey. Ça a été fait au printemps dernier. Et je suis convaincu qu'on a enlevé un 16 logements de pression sur les épaules d'Alexander Ovechkin. Je suis convaincu que c'est plus agréable maintenant de jouer au hockey une fois que tu as remporté la Coupe Stanley. Cette équipe-là débarque au Centre Bell et vous savez quoi? Ils ont à peu près la même fiche que le Canadien depuis le début de la saison. Comme quoi, il faut attendre un peu avant de se faire vraiment une idée sur une équipe qui a à jouer une saison de 82 matchs. Pas en train de dire que le Canadien va s'écrouler. Le Canadien joue bien. Le Canadien fait plaisir à ses partisans. Je pense que c'est ça le plus important. Mais ça peut arriver qu'au bout de 9 matchs, il y a 2 équipes qui n'ont pas le même talent sur la feuille 8,5 par 11 qui se retrouvent avec à peu près la même fiche. Le Canadien est 6-3-2 pendant que les Capitals sont 5-3-2. Braden Holtby a eu énormément de succès dans sa carrière contre le Canadien. À l'inverse, Price n'en a pas eu beaucoup de succès contre Washington. Sachez que dans la Ligue nationale, il y a 13 matchs au total aujourd'hui. Déjà, les Jets de Winnipeg ont remporté le match en Floride. Pas en Floride, mais contre les Panthers de la Floride à Helsinki, en Finlande. Le match est terminé. Le match était à 2h, 14h, heure du Québec. 20h, heure de la Finlande. C'est la Global Series, c'est des équipes de la Ligue nationale qui jouent des matchs de calendrier régulier en Europe. Demain, les deux mêmes clubs s'affrontent, toujours à Helsinki, en Finlande. Parmi les 2 équipes de la Floride et des Jets, on n'a pas pris ces équipes-là au hasard. Il y a 2 excellents Finlandais. Patrick Laine des Jets, qui a marqué 3 buts dans le match, il a le sens du spectacle quand même. Et Alexander Barkov, le capitaine des Panthers, qui a fourni une mention d'aide dans la défaite de son équipe. Les Panthers ont eu un début de saison horrible. Vivement le retour de Roberto Luongo. On a appris en début d'après-midi aujourd'hui qu'il était remis de sa blessure et on pense même le faire garder les buts demain. Au départ, on avait dit non, c'est beau, il peut jouer, mais ça va aller au retour de l'équipe en Floride, à Sunrise. Mais les dernières infos qu'on a pu lire dans les dernières minutes, c'est que finalement, ça pourrait être Roberto Luongo le gardien demain. 2 victoires en 10 matchs pour les Panthers depuis le début de la saison.
La CBC à Don Cherry.
Bonjour, Marley Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Mon ami Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi, Dan.
Oui, ça va bien. J'ai dit mon ami, il n'y a pas d'hasard à ce que je dise mon ami, c'est que j'ai peur qu'après notre conversation, on le soit un peu moins.
Oh!
Là, je te fais peur, hein?
Oui, tu m'inquiètes.
Parce que c'est pas vrai qu'on va être moins amis, mais c'est un dossier un peu délicat pour toi et tu vas très bien comprendre. Je sais que tu vas bien l'aborder comme tu le fais à chaque fois, à chaque jeudi qu'on se parle. Parce que tu as un antécédent d'entraîneur, tu as été une 20aine d'années dans l'hockey junior et tu as même dirigé dans la Ligue américaine au niveau universitaire et tout. Puis tu as eu à dealer, si tu me prêtes l'expression, avec des arbitres de hockey. Ça, c'est pas toujours facile comme entraîneur. Puis quand on est arbitre, c'est pas toujours facile les relations avec les entraîneurs de hockey. Hier, dans mon émission, j'ai fait une entrevue avec l'arbitre en chef de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, François Talbot, sur la pénurie d'arbitres au hockey mineur. Il y en avait 800 il y a 4 ans, il y en a moins de 600 maintenant. On en perd plus de 50 par année des jeunes parce qu'ils sont désintéressés du hockey. Est-ce que, au cours de ta carrière, il t'est arrivé, parce qu'on vieillit aussi, là. Tu sais, je veux pas te vieillir, mais t'es rendu autour de la cinquantaine. Probablement que si t'avais à diriger un match demain soir, tu le dirigerais pas de la même façon que quand t'avais 28 ans. Il t'est-tu arrivé dans ta carrière de coach, Éric, de revenir à l'hôtel si c'était une game sur la route ou à la maison si c'était une game à domicile, puis d'avoir un peu regretté une jasette trop houleuse avec un officiel?
Il n'y a aucun doute. Puis je pense que quand j'ai mis fin à ma carrière de coach, une des choses que je me suis dit que j'aurais dû améliorer ou être meilleur, j'aurais le goût de te dire la relation avec les arbitres, dans le sens qu'il y a trop souvent où j'ai été émotif.
Okay.
Ou à certaines occasions, oui, j'ai dépassé la ligne. Et ça, comme tu le dis, ça vient souvent avec l'expérience en vieillissant. Je pense qu'on vient tous qu'à s'assagir à un moment donné. Mais quand on commence dans cette carrière-là, souvent quand on a un tempérament plus émotif, on se laisse aller à l'occasion. Puis moi, une des choses qui m'avait fait réaliser bien beaucoup du travail des arbitres, puis qui m'avait fait donner un peu... montrer beaucoup plus de respect face à leur travail. C'est la journée que j'ai eu à donner une conférence au groupe d'arbitres de la Ligue junior majeure du Québec. La Ligue m'avait demandé, vu que leur formation était à Québec un été, ils m'avaient demandé de venir donner une conférence aux arbitres devant... Tu te retrouves tout seul face à l'ensemble des arbitres de la Ligue. Et quand tu fais réflexion à savoir quelle devrait être la relation entre les coachs puis les arbitres, tu te rends compte à ce moment-là que oui, t'es arrivé de dépasser la ligue. Oui, t'es arrivé d'aller trop loin. Puis oui, t'as laissé l'émotion l'emporter sur la raison. Puis le point que j'avais surtout retenu là-dessus,
oui.
C'est que on aurait tout avantage à ce que les arbitres et les entraîneurs communiquent beaucoup plus. Puis je me souviens qu'une des choses que j'avais recommandé à ce moment-là, c'est que j'avais dit aux coachs, aux arbitres, je réalise aujourd'hui que quand vous venez nous parler au banc, venez avec un de vos juges de ligne ou avec votre deuxième arbitre. Comme coach, on va probablement moins s'en permettre. On va probablement plus faire en sorte de discuter à trois que d'avoir un one-on-one où là, on se laisse encore plus emporter. Mais j'ai surtout réalisé que les années, que le fait de côtoyer des arbitres dans une réunion, dans un colloque, dans une conférence que tu donnes à un groupe d'arbitres qui sont des athlètes, qui font un métier par passion, puis que c'est pour certains, c'est le gagne-pain. Mais si on avait la chance de discuter davantage, d'apprendre à se connaître davantage, mais tu as un petit peu moins tendance à crier après quelqu'un que tu connais. J'ai réalisé à ce moment-là qu'on a chacun un travail à faire, puis on devrait prendre le temps qu'ils viennent nous entendre sur le rôle de coach, qu'on aille les entendre sur le rôle d'arbitre et qu'on échange, que ça n'ait pas l'air d'une confrontation quand un match commence, mais qu'on comprenne qu'on est des acteurs qui vont faire partie du spectacle qui vont être offert. Le spectacle appartient aux joueurs, c'est vrai, mais veut pas, l'arbitre fait partie de ça, le coach fait partie de ça par l'utilisation de ses joueurs, mais il faut trouver une façon d'améliorer la communication. Puis quand on améliore la communication, mais ça amène qu'il y a beaucoup plus de respect envers un groupe dans les deux sens, autant pour les arbitres que pour les entraîneurs, dans un sens ou dans l'autre. Mais pour venir à ta question d'origine, oui, si j'avais recommencé ma carrière de 20 ans dans le coaching, je pense que ce serait une des choses que j'essaierais d'être beaucoup plus calme là-dessus puis beaucoup plus discipliné.
J'ai pas coaché autant que toi, en fait. J'ai pas coaché partout. Mais dis-moi si je me trompe, Éric. J'ai l'impression que, à première vue, il y a des arbitres ou des entraîneurs qui se sentent en compétition avec l'autre personne, alors que ça devrait être un partenariat.
T'as absolument raison de savoir que ça va être un partenariat, mais souvent, autant dans l'arbitrage que dans le coaching, c'est des égos assez forts qui font en sorte que c'est souvent deux coqs dans le même poulailler, puis tu veux être sûr de gagner ton point. Souvent, tu veux, face à tes joueurs, montrer que c'est toi qui es en position d'autorité. Puis c'est une erreur. Je pense que tu viens de le dire, c'est un partenariat. Et je redis à nouveau qu'un partenariat, ça s'établit d'abord et avant tout par les communications. Et je pense que dans nos formations d'entraîneurs comme coach, il devrait avoir une chronique qui est donnée, une conférence qui est donnée par des arbitres qui viennent nous expliquer leur position, qui viennent nous expliquer comment ils se sentent sur la glace face à un groupe de coachs, comment ils se sentent sur la glace face à telle sorte de coach, et le vice-versa, d'avoir la chance d'aller parler à des arbitres, tu comprends encore plus leur travail et ça te fait encore plus respecter leur travail. Je pense que les arbitres vont comprendre aussi pourquoi des fois on est émotif, pourquoi des fois en fonction du classement, pourquoi des fois notre job est en jeu, mais l'arbitre, malheureusement, n'est jamais en bonne position parce que c'est rare qu'un arbitre va être félicité. Puis j'ai jamais vu d'arbitre avoir des étoiles en fin d'un match, même si bien souvent il en mériterait. Mais si on pouvait valoriser un petit peu plus ce travail-là, et si chacune des ligues faisait en sorte que, en début d'année, une rencontre entre le groupe d'arbitres et le groupe d'entraîneurs, une rencontre en mi-saison pour faire une mise au point, mais tu as la chance d'échanger, puis tu comprends mieux qu'est-ce que ces gars-là ont vu quand ils ont pris telle sorte de décision, puis ils vont te le dire, toi, ce qu'ils ont trouvé que tu n'as pas fait de correct, puis je pense que ça améliorerait beaucoup la situation.
Éric, après l'entrevue que j'ai faite hier avec l'arbitre en chef Québec Chaudière-Appalaches, qui me raconte que plus de 50 arbitres par année depuis 4 ans ont quitté les rangs de la région, tellement que dans les prochaines semaines, ça se peut qu'il y ait des matchs de hockey mineur qui soient repoussés par manque d'arbitres. Après avoir parlé avec l'arbitre en chef hier, j'ai reçu le message suivant de la part de Charles. Charles dit « Bonjour, j'ai écouté l'entretien de ce soir dans votre émission et voici mon expérience personnelle. J'ai été arbitre pendant 12 ans, de 16 à 28 ans. Dépassé 24-25 ans, je le faisais plus pour la paye, mais bien par passion. Avec mes années d'expérience, j'arbitrais du hockey d'élite à mes dernières années et ce fut pire que dans les calibres A et B. La pression des entraîneurs et surtout des parents qui nous traitent de tous les noms quand une décision ne va pas en faveur de l'équipe de leur fils, m'a fait sortir du domaine. J'avais même de la difficulté avec mon estime de soi, puisqu'à chaque fois que j'arbitrais, je me sentais réduit par l'environnement du hockey. Je ne souhaite pas ça à aucun jeune. Dommage qu'ils ne veulent plus se tourner vers l'arbitrage, en grande partie en raison de l'environnement malsain. C'est le message de Charles, Éric, qui a quitté l'arbitrage de hockey mineur malgré le fait qu'il avait une douzaine d'années d'expérience.
Oui, puis c'est triste. Je pense que il faut justement, c'est un message qu'il faut entendre. Je pense qu'il faut que les organisateurs l'entendent, il faut que les entraîneurs l'entendent, il faut que les parents l'entendent. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. On est dans un... On a souvent donné le pouvoir dans les arénas beaucoup aux joueurs, aux entraîneurs, aux parents, et l'arbitre se retrouve souvent seul au monde parce que quand je dis qu'ils sont trois sur la glace pour faire régner l'ordre, ben c'est seul au monde. Dans l'hockey mineur, c'est encore bien souvent un système à trois arbitres. Et quand un jeune commence, il faut qu'il commence à la base. Puis c'est des jeunes que si, dès leur premier match, ils commencent à se faire trier après. Mais tout ça revient au point de départ de faire de l'éducation, de parler au coach rapidement. Je pense qu'il devrait même avoir des capsules publicitaires faites là-dessus sur le travail de l'arbitre. Il devrait avoir des capsules publicitaires, des pamphlets publicitaires qu'on donne aux parents, aux entraîneurs. Il faut éviter le fait qu'un jour, on dise, on permet pas à personne d'assister au match, là, comme il était fait dans certains sports par rapport au fait que les parents mettaient de la pression. Mais si on n'a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Et c'est pour ça, je pense, pour venir à la base, il faut trouver une façon de valoriser leur travail de un et de trouver une façon d'amener beaucoup plus de respect. C'est la seule façon qu'on va garder nos arbitres. C'est la seule façon qu'on va leur donner le goût d'arbitrer. C'est la seule façon que, comme parents, on va avoir le goût de pousser nos enfants à aller arbitrer pour redonner à leur sport. C'est que si on fait tout ça, tout le monde ensemble, je pense qu'on peut faire virer la tendance de l'autre côté, mais ça va prendre beaucoup de travail à ce niveau-là.
OK. Dans l'hockey de la Ligue nationale, aujourd'hui, les Jets et les Panthers ont joué des matchs à Helsinki, en Finlande. Comme coach, j'imagine que c'est pas trippant d'aller jouer des games en Europe en début de saison comme ça?
Mais je suis même pas sûr que les joueurs aiment ça non plus, là. Autant les joueurs que les coachs, c'est le décalage horaire, c'est de partir, t'installer dans des installations qui sont pas les tiennes. C'est une culture différente, une nourriture différente. C'est pas, tu changes complètement ta routine. Puis on a regardé dans les dernières années, il y a des équipes qui n'ont pas fait les séries pour par un point. Tu te poses la question dans l'année, c'est quel game qui aurait peut-être pu faire la différence si on l'avait joué autrement? Mais quand ça arrive à ce moment-là, si on prend, on n'a pas regardé très loin l'an passé, plusieurs personnes disent que la saison, les Sénateurs d'Ottawa viraient de bord à partir de ce voyage-là. Ils sont revenus, ils ont eu de la misère à reprendre leur rythme parce qu'il y avait de la fatigue suite à ces deux matchs-là, même s'ils avaient gagné. Ça va prendre du temps que les joueurs s'en remettent. Puis c'est pas... oui, c'est de la promotion de la Ligue nationale, mais je suis pas convaincu que c'est absolument nécessaire. Puis je peux te confirmer que pour des coachs, surtout quand c'est des matchs de saison régulière, même j'entends des coachs dire qu'en match hors concours, ils veulent même pas y aller. Fait qu'imagine en saison régulière. C'est que je pense pas que... Quand la Ligue nationale fait le calendrier puis dit qu'il va avoir deux équipes, mais je suis pas mal sûr qu'il y en a 29 qui se disent « J'espère que ce sera pas moi » puis il va y avoir deux perdants dans tout ça.
OK, j'ai une question pour toi. Hier, je regardais le match en revenant de ma game de hockey. C'était le match à 22h à Vancouver, Chicago contre les Canucks. En fin de match, Éric, c'est 4-2 pour Vancouver. Et il reste à peu près une minute et demie, deux minutes au match. Chicago enlève son gardien, retire Corey Crawford. Elias Pettersson, la jeune sensation des Canucks, était sur une séquence de 7 buts en 7 matchs. C'est à ses débuts dans la Ligue nationale. Il avait joué 7 matchs, il avait marqué 7 buts. Rendu là dans le match, il n'y en avait pas de buts. Moi, j'étais assis dans mon salon, puis je regardais les joueurs des Canucks sur la patinoire, puis je me disais, avec 2 buts d'écart, un 31 octobre, on s'entend que c'est pas un 9 mars pour une participation ou non en série, là. Pourquoi pas envoyer le jeune Pettersson sur la patinoire pour lui permettre de continuer sa séquence dans un filet désert, même si je suppose que ça ne doit pas être le meilleur joueur défensif de l'équipe?
Je suis 100% d'accord avec toi, mais l'élément qui est encore plus important pour moi entre le 31 octobre et le 17 mars, c'est que tu mènes par deux.
En plus, c'est pas juste un but.
J'avais le réflexe qu'à chaque fois que je menais par deux puis que j'avais un joueur qui avait déjà deux buts, c'est sûr que tu lui donnes la chance d'aller chercher son tour du chapeau. Ça, pour des joueurs et pour un coach, les joueurs adorent voir un coach faire ça. C'est une façon de rapprocher le coach des joueurs, parce que n'importe quel joueur sur le banc, même si t'es un spécialiste de la défensive, prenons Guy Carbonneau dans le temps, même s'il n'avait pas été embarqué à ce moment-là, il aurait été le premier content de voir que le coach donne la chance à un gars parce qu'on mène par deux buts, puis il peut peut-être aller chercher un tour du chapeau, ou dans le cas d'hier, de poursuivre sa séquence avec un but. Quand tu mènes par deux, tu peux donner un peu de bonbon, puis tes spécialistes reviendront après, parce que ça veut pas dire que tu vas te faire scorer parce que ton joueur est là, mais c'est des genres de petits détails qui vont faire qu'au bout de la ligne, un entraîneur va gagner beaucoup de points auprès de ses joueurs, puis c'est un genre de détail qui peut faire la différence sur une longue période.
OK, il y a l'excitation du début de saison dans la Ligue nationale. Après ça, il y a le temps des fêtes. Là, il y a la game des étoiles qui arrive. Il y a la date limite des transactions. Il y a des distractions, puis il y a des moments un peu plus marquants. Tu dirais-tu que à partir de maintenant jusqu'à Noël, je veux dire novembre, puis les trois premières semaines de décembre, c'est une période un peu plus creuse où c'est plus difficile de motiver les joueurs?
Je vais te dire à partir de la mi-novembre. Mi-novembre à mi-décembre, là, jusqu'à la pause du match des étoiles.
Okay.
Parce que là, il y a encore certaines équipes qui ont 10, 12 matchs de jouer, qui sont pas rendus encore assez loin dans la saison, que là, tu vas encore prouver bien des choses au coach. Il n'y a rien d'établi encore, il n'y a rien d'établi dans ton organisation. Je regardais un gars comme Hudon aujourd'hui qui veut faire sa place puis montrer. Il y a encore place parce que les choses sont pas tout à fait mises en place dans chacune des équipes. À partir de la mi-novembre, là, quand il reste un mois avant la pause du temps des fêtes, là, le dernier mois est plus difficile. Parce que là, t'as frappé, t'as dépassé le quart de la saison, t'es rendu, l'équipe est pas mal installée, t'as eu la chance de montrer au coach où tu te retrouves, et tu remarqueras que là, à un moment donné, les coachs établissent plus leur trio, et là, ça devient plus difficile pour un gars de quatrième trio de monter sur un troisième, troisième vers un deuxième. C'est comme si les choses, le casse-tête se mettait plus en place, et là, tu tombes que l'excitation, la frénésie du début d'année fait moins en moins effet, puis tu commences aussi à savoir où est-ce que ton équipe va se retrouver. C'est que si t'es d'un début de saison que ton équipe surprend, là, cette équipe-là joue encore avec l'émotion et avec l'excitation. Mais quand un autre club commence à jouer un petit peu où ce qu'on sait où ils vont se retrouver, mais là, tu perds un peu d'adrénaline Et là, tu vas avoir une baisse de régime. Les gars vont commencer à être fatigués. Les blessures font un petit peu plus mal. Et oui, c'est une période creuse. Un peu à l'image de ce qu'est le mois de novembre. Ça y ressemble beaucoup. Et les gars ont hâte d'arriver à la pause avant de partir pour la deuxième moitié de saison.
OK, dernière question pour toi, coach. Dans le midget 3, les Chevaliers de Lévis ont 18 victoires en 18 matchs. Demain soir, d'ailleurs, ils reçoivent le Blizzard à l'aréna de Charny parce que l'aréna de Lévis est en rénovation. C'est à l'aréna de Charny demain soir, 19h30, pour les gens intéressés. Est-ce que comme coach, là, ils l'ont brisé le record de début de saison, là, c'était 16, puis ils en ont 18. Est-ce que comme coach, il peut pas le dire vraiment, Mathieu, là, en public, mais est-ce que comme coach, tu as l'impression qu'il a hâte que la première défaite arrive pour que son équipe passe à autre chose?
Ah non. Ils doivent tellement être excités. C'est un exploit tout à fait extraordinaire. Là. Peu importe
oui.
le sport
ben
que
oui.
tu pratiques,
mais
peu importe le sport ou le calibre que tu joues,
oui.
18 victoires comme ça, c'est extraordinaire. Fait que t'as l'impression que tu veux pas que ça arrête.
Okay.
Un coup que tu la perds,
oui.
tu vas dire, OK, c'est une bonne affaire, on passe à d'autres choses.
Okay.
Mais comme coach, tu revivras peut-être plus jamais un high de ta vie comme ça. Même avec ta femme. En profiter au maximum. C'est sûr qu'ils sont dans leur bulle, c'est sûr qu'ils sont dans leur excitation de ce record-là. Un coup qui va être cassé, oui, ils en parleront. Mais c'est sûr que demain, ils vont se présenter au match avec la nervosité, avec le plaisir puis le désir de continuer à performer de la sorte. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font, puis je leur lève mon chapeau, puis j'en profite pour les féliciter d'ailleurs.
Sérieusement, pour les avoir vus jouer, Eric, là, j'en ai suivi beaucoup de hockey midget 3 dans les dernières années à Québec. C'est un des clubs les plus complets que j'ai eu le bonheur de voir jouer. C'est oui, tout le monde parle de Joshua Roy, là, qui est très, très bon, le meilleur marqueur de la Ligue, mais c'est pas juste l'affaire de Joshua Roy, c'est une équipe très complète.
Pour en gagner 18, il faut que tu aies une équipe très complète, mais le vrai défi va commencer, mais qu'il y en ait perdu une. Parce que là, après ça, ça repart en neuf, puis là, tu veux pas tomber dans l'autre direction, c'est que tu veux montrer que t'étais pas un feu de paille. C'est qu'ils vont être sa pression toute l'année, mais c'est la beauté du sport, puis c'est pour ça que t'as le goût de coacher puis de jouer au hockey.
Parfait, un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan.
Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match, juste avant d'aller à la pause. Je veux vous dire que demain soir, au Sport Expert de Laurier-Québec, Alex Harvey, vedette internationale qui vient de chez nous, il va être là pour une mini-conférence et une séance de signature d'autographe de 18h à 19h30 demain soir au Sport Expert de Laurier-Québec. C'est possible pour vous de rencontrer Alex Harvey. Voilà, le message est passé. Et les troisième et quatrième appels qui appellent à l'instant en régie au 418-670-9330 pourraient gagner une paire de billets. Ben, en fait, pourraient gagner. Si vous êtes troisième et quatrième appel, posez-vous pas de questions, vous allez gagner, là. Mais si vous êtes neuvième appel, ça sera peut-être pas vous. C'est ça que je voulais dire. Paire de billets pour assister au match. Des Remparts contre les Wildcats. La visite attendue de Jacob Pelletier, un kid de Québec qui va très bien dans la LHJMQ. C'est son année de repêchage, d'ailleurs. C'est mardi le 20 novembre. À l'instant, troisième et quatrième appel, vous gagnez chacun une paire de billets pour aller voir ce match-là. On s'arrête. On a deux paires de billets. Le troisième et le quatrième appel vont gagner. Ah, c'est des forfaits pour quatre. Désolé. Alex a bien fait de me ramener à l'ordre. C'est deux fois quatre billets. Voilà. C'est mieux expliqué comme ça. Merci, Alex. 418-670-9330.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93. Vous écoutez l'avant-match.
Le 8 novembre, à la salle Jean-Paul Tardy, le groupe Cinglé présente les soirées Fou Rire. En tête d'affiche, les humoristes Mike Baudouin et Richardson Zephyr. À l'animation, P.A. Baudouin. Billets à seulement 10$ sur lepointdevente.com. Une collaboration du FM 93.
Créative et inventive. Voilà que tous mes sens s'activent. Je vais de bonheur en bonheur. Amalgame de saveurs dans une fusion de petit caprice, donne toujours le coup de plaire. Ta table de la fenouillère, de l'entrée jusqu'au dessert, donne toujours le goût de plaire. La table de la fenouillère.
Une extraordinaire passion culinaire à deux pas des ponts.
Les gars, encore cette année, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut chez Pentagone. Tenue de ville, tenue sport, vous allez trouver autant votre fameux jeans buffalo que des chemises à carreaux. Ou encore, le blazer que votre blonde aimerait tant vous voir porter. Ça coûte pas cher en plus. Pentagone,
fièrement d'ici.
Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées, ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande.
Qu'est-ce qu'on entend tout le temps ces temps-ci? As-tu posé tes pneus d'hiver? As-tu les nouveaux pneus d'hiver, pneus d'hiver, pneus d'hiver, pneus d'hiver? Ben moi, j'en rajoute grâce au FM 93. Et les Canadiens Tire de la grande région de Québec, vous pourriez gagner vos pneus d'hiver.
Pour quelques jours, textez le mot « pneu » au 25226.
Vous pourriez gagner un jeu de 4 pneus d'hiver du nouveau modèle. Les Winter Edge. Alors désolé, vous allez encore entendre parler de pneus.
Gagnez vos pneus grâce au Canadian Tire de la grande région de Québec.
Textez le mot pneu au 25226. Une idée du FM 93.
Grande vente pré-saison chez ADM Sport. 20% sur vêtements, pièces et accessoires motoneige quad 2019. Tournez la roue chanceuse et courez la chance de gagner votre achat. Détails sur place. ADM Sport. Boulevard Amel, Québec.
L'imaginaire des enfants prendra vie sous vos yeux lors de la parade des jouets IA Groupe Financier. Le samedi 10 novembre dès 15h, le Père Noël Club Jouet fera son arrivée lors de la 17e édition du défilé. Le lendemain, les activités familiales se déplaceront à Place Jean-Béliveau. Exposition de chars allégoriques, jeux gonflables, camions, restaurants et spectacles. Et on récolte toujours vos jouets. Les 10 et 11 novembre, ne manquez pas le week-end magique de la parade des jouets IA Groupe Financier. Info sur paradesjouets.ca.
Merci à Caisse de Québec et de Limoilou, Ville de Québec, Isolation Air Plus, Marcus Gare et le FM 93.
Vous avez confié vos actifs à une institution financière, mais vous aimeriez envisager de nouvelles stratégies pour optimiser vos rendements et payer moins d'impôts? Vous aimeriez discuter avec des professionnels en gestion de placement tout en profitant d'une tarification avantageuse? Ici Jean-Maurice Vézina. Mon équipe met à votre disposition ses expertises et vous propose une rencontre pour vous connaître et vous présenter nos services. Montez avec nous.
Jean-Maurice Vézina avec Services financiers Group Investors, cabinet de services financiers, membre IG, gestion privée de patrimoine.
Le 20 novembre, le FM 93 envahit le centre Vidéotron. C'est le match des remparts FM 93. Notre but, c'est d'être le plus d'auditeurs possible pour encourager les remparts contre les Wildcats de Moncton. Et on sait qu'on va au moins être 100 auditeurs du FM 93 sur place parce qu'on fait tirer une centaine de billets. Vous avez deux manières de gagner. Vous écoutez l'avant-match que Québec se lève et la grand-messe du rock ou encore, vous vous inscrivez sur fm93.com. Une collaboration des remparts de Québec et du FM 93.
Le groupe Garneau Thanatologue, c'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Ils vous accompagnent dans le respect et vous guident dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. Groupegarneau.com.
Du dimanche au jeudi, au Vieux du Lutte, savourez nos délicieux duos classiques avec nos fameuses crevettes papillons en vedette à partir de seulement 17,95 pour une durée limitée dans les restaurants participants et apportez votre vin.
Au Vieux du Lutte, quel festin!
Chez Honda de Giro, avant, ils étaient fins. Maintenant, ils sont beaux et fins. C'est normal, ils ont tout rénové. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi, avenue Saint-David, Montmagny.
L'unique, l'irremplaçable avant-match avec Dan Pou. Au FM 93.
OK, maintenant, on va s'en aller en Alberta pour parler avec le journaliste sportif Patrick Henry, qui travaille là-bas pour Radio-Canada. J'aime toujours faire avec lui une mise à jour des deux clubs de l'Alberta, les Oilers et les Flames. Et là, hier, au conseil de ville de Calgary, il y a eu un vote concernant cette motion qui aurait pu mettre un terme au débat concernant la possible présentation des Jeux olympiques en 2026 à Calgary. Finalement, ça prenait, si j'ai bien compris, Patrick pourra me corriger, mais ça prenait 10 personnes sur 15 en faveur de cette motion, mais il y a seulement 8 personnes qui ont voté pour la motion, comprenez-moi bien, pas pour les Jeux olympiques, mais pour la motion qui allait interdire la suite des choses ou qui allait provoquer l'arrêt des procédures. Mais finalement, on poursuit et il y aura référendum le 13 novembre. Patrick, est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, c'est ça. Ça prenait le 2/3 des votes, 15 conseillers municipaux, donc le 2/3 pour empêcher le référendum de se produire. Oui. Je pense que ceux qui étaient contre disaient qu'il y avait des coûts trop élevés au référendum et que de toute façon, ça allait pas passer. Les autres disent, ben laissons la population s'exprimer, surtout maintenant qu'il y a eu une entente entre le fédéral, le provincial et le municipal. Donc là, ça va aller de l'avant. Les gens vont pouvoir se prononcer. Alors, s'il n'y a pas d'Olympique à Calgary, ben en raison du résultat du vote, il n'y a personne qui va pouvoir dire que c'est les gouvernements qui ont pris la décision.
Non, ce sera
les gens
public.
De Calgary,
oui.
eux-mêmes qui se oui. sont exprimés. Puis si on décide d'aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'il y aura des jeux.
Non.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, ceux qui mènent le dossier pourront dire que la population est de notre côté. On a au moins, pas carte blanche, mais on a au moins l'appui de la population pour pouvoir continuer le travail.
À ce moment-là, Calgary deviendrait finaliste avec, si j'ai bien vu, Milan et Stockholm.
Oui, il semblerait qu'il y a une autre ville là, qui s'est manifestée aujourd'hui.
Okay.
Je pense que c'est une ville en Argentine. Là.
Okay.
Encore peut-être l'intérêt. On n'a pas encore là, mis la date limite pour proposer sa candidature. Donc, il pourrait y avoir des candidatures de dernière minute. On sait qu'avec le CIO, des fois, on est toujours un peu surpris de voir ce qui se passe. Il y a des règles, mais ça sont un peu contournées ou
ouais.
On fait des petits accros. Donc, on verra s'il y a d'autres candidatures intéressantes. Mais pour l'instant, là, la principale candidate, autre Calgary, ce serait Stockholm mensuel. Ouais.
OK. Pour le référendum de Calgary, ce sera le 13 novembre. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le public est en faveur pour l'instant?
C'est tellement partagé. L'opinion est vraiment là des deux côés. Il y a des gens qui parlent fort pour, des gens qui parlent fort contre. Aujourd'hui, il y a eu un appui assez important. La Chambre de commerce qui avait dit qu'elle n'allait pas se prononcer sur la question a décidé de donner son appui au jeu après avoir vu le dossier.
Donc, c'est bon, ça.
Okay. Peut-être de bon augure pour les gens okay. du oui. Les athlètes sont très nombreux. Les athlètes olympiques là, d'été et d'hiver, eux, sont très présents dans la communauté,
oui.
Font la promotion des jeux. Ils veulent avoir les jeux à la maison. Et je pense qu'on est en train de mettre un peu de pression sur le comité organisateur aussi pour qu'il revoie les coûts. On veut s'assurer qu'ils soient transparents. Et jusqu'à maintenant, ils le sont. Là. Ce qu'on voit comme coûts, c'est des choses qui ont été revues souvent à la baisse et on nous dit déjà à quoi ça va servir par la suite. Les gens de Calgary savent que les installations qui ont été bâties en 1988 sont encore utiles pour la plupart. Il y en a qui méritent d'être retapés un peu, là, la piste de Swaski, par exemple, la piste de bobsleigh, mais ça, il y a déjà du budget qui est prévu pour refaire ça à l'extérieur du budget olympique. Donc, mais les gens de Calgary le savent et ils ont l'atmosphère d'avoir des compétitions de Coupe du Monde à chaque année.
Oui.
Et ça fait partie du rythme de la ville. Alors, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas perdre et ils savent que si on va de l'avant avec une candidature pour les Jeux de 2026, les infrastructures seront modernisées et ce rythme-là de vie, cette ambiance presque olympique en permanence à Calgary va rester pour encore plusieurs autres années après les Jeux de 2026.
OK. Si jamais le référendum du 13 novembre est positif pour les gens de Calgary, juste expliquer aux auditeurs que la formule est toujours la même. On annonce la ville hôtesse toujours 7 ans avant la présentation des Jeux. Donc, dans ce que c'est pour 2026, ce sera en juin prochain, en juin 2019. Si tu me permets, Patrick, on va faire un bref résumé des 12 premiers matchs, 13 pour Calgary, 11 pour Edmonton, la douzaine de matchs qu'on a joués dans la Ligue nationale depuis le début de la saison. Je commencerai avec les Oilers. Tu sais à quel point j'aime Jesse Puljujärvi. Il y a d'ailleurs eu un match cet après-midi entre les Panthers et les Jets dans la série globale. Deux matchs aujourd'hui et demain à Helsinki en Finlande. Évidemment, au championnat mondial de hockey junior, Puljujärvi en avait mis plein la vue avec Sébastien Aho et Patrick Laine. Sa progression est plus lente, mais moi je pense encore, je fais partie des gens qui pensent encore qu'il peut jouer régulier dans le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale. Par contre, Todd McLellan n'est pas vraiment d'accord avec moi. Il a été laissé de côté les 4 derniers matchs.
Ouais, il fait beaucoup parler de lui, Jesse Puljujärvi, dernièrement, parce que on n'aime pas le voir. Personne n'aime le voir dans les gradins. Ceux qui l'aiment pas sur la patinoire disent au moins on devrait l'envoyer dans la Ligue américaine. Et il y en a d'autres comme toi qui veulent le voir jouer avec les Oilers parce que c'est en théorie, il est meilleur qu'un Drake Caggiula, qu'un Ryan Strom ou qu'un Zach Kassian. Il faut trouver l'utilité à Jesse Puljujärvi. Et je pense que le but de Todd McLellan, c'était de le laisser de côté peut-être pour un match ou pour deux. Mais là, les Oilers ont collé 3 victoires de suite. Alors, c'est difficile d'apporter des changements à ta formation quand tu gagnes. C'est une philosophie que la plupart des entraîneurs ont dans la Ligue nationale. Là, tant qu'on va gagner, on va continuer avec la même formation. Donc, Puljujärvi a été peut-être un peu victime de ça. Les Oilers ont perdu mardi. Donc, Puljujärvi va faire son retour dans la formation ce soir. Mais on a tenté plusieurs expériences avec lui. Tout le monde est convaincu qu'il a un gros potentiel, qu'il est capable de marquer. Le but qu'il a marqué à Winnipeg cette année, c'est son seul but, mais ça a été un but qui a changé le cours là, du match et qui a changé, et ce match-là a changé le cours de la saison des Oilers. On est presque convaincu déjà qu'à la fin de la saison, si jamais les Oilers font les séries, on va revenir sur ce match-là à Winnipeg, le quatrième de la saison, où les Oilers tiraient de l'arrière 4-0, puis ils ont gagné 5-4. Alors, tout ce qui s'est passé dans ce match-là va avoir joué un rôle important dans la saison. On le croit encore. On verra à la fin de la saison s'il n'y a pas d'autres points majeurs, d'autres événements majeurs qui se produisent. Mais Puli Harvey était un des artisans de ce match-là. Donc, il est capable de le faire. Ce qui manque, c'est un peu de consistance. Il n'est pas comme ça à tous les matchs. Il est encore un peu perdu. On blâmait au cours des dernières années sa compréhension de l'anglais. Je pense que là, il s'est amélioré beaucoup là-dessus. Mais il semble encore un peu... il est jeune. Il est tellement jeune. Je l'ai vu à l'entraînement ce matin. On lui a parlé encore à l'entraînement. Et on n'est pas certain qu'il sait ce qui se passe, qu'il comprend. Il veut s'amuser. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si on veut qu'il s'amuse, si on veut qu'il ait du plaisir, envoyons-le dans la Ligue américaine quelques semaines. Il n'y a pas besoin de passer par le balotage. Les Oilers ont de bons jeunes prospects, mais ils pourraient quand même jouer là-bas au sein du premier trio, reprendre confiance et revenir prêter main forte à l'équipe après. Parce que tant qu'elle l'utilise au sein d'un troisième trio ou d'un quatrième trio, ça vaut pas le coup. On va peut-être le brûler. Okay. Alors, il faut qu'on lui fasse la place au sein des deux premiers trios. Et pour l'instant, il y a des joueurs qui jouent bien. Alex Chiasson est là. On pensait jamais qu'Alex Chiasson allait pouvoir jouer au sein du deuxième trio. Pourtant, c'est lui qui est là présentement. Alors, on va le laisser là pendant que ça fonctionne, mais quand ça fonctionnera plus, il va falloir essayer quelqu'un d'autre. Peut-être que là, ça sera au tour de Puli Harvey. Mais la combinaison Puli Harvey-McDavid, il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'avoir, mais c'en est une qui fonctionne pas. Celle-là, on l'a déjà essayé. McDavid est capable de jouer avec beaucoup de monde, mais avec Puli Harvey, il y a des gens à voir qui trouvaient ça un peu difficile. Alors, peut-être qu'on va réessayer à un moment donné dans la saison, mais pour l'instant, c'est une des combinaisons qui est hors de question.
Dis-moi, 6-4-1 au bout d'11 matchs, c'est pas une saison de rêve, mais vu la saison précédente, j'imagine qu'on est quand même content.
Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas nécessairement juste l'affiche, mais c'est les équipes qui ont été que les Oilers ont affrontées. Parce qu'on a commencé contre le New Jersey, mais après ça, Boston. Il y a eu Rangers qui était en parenthèse un match facile. Mais après ça, Winnipeg, Boston, Nashville, Pittsburgh, Washington, Nashville encore. Okay. Ça, c'est toutes des équipes qui ont amassé plus de 100 points l'an passé. Là, on a eu Chicago. On recommence avec Minnesota qui a eu aussi une grosse saison. Fait qu'on a joué contre des équipes qui ont participé aux éliminatoires, mais qui ont été parmi les 8 meilleurs l'an passé au classement général et ont réussi à garder une fiche positive. Donc, oui, on est très content du côté des Oilers parce que là, on regarde le calendrier. Les Blackhawks ce soir, les Red Wings ensuite. On a un petit break de ce côté-là. Et là, on va commencer à affronter des équipes un peu plus un milieu de peloton. Et là, ça va être important pour les Oilers de continuer à amasser des points. Mais ces points-là qu'ils ont amassés au début de la saison pourraient être très importants. Alors, on est très content, surtout compte tenu du début de saison, parce que le pire match des Oilers cette année, ça a été le premier contre les Devils du New Jersey. Et ça a donné déjà beaucoup d'inquiétude aux partisans que ça va pas recommencer encore comme ça. Donc, après deux défaites, là, on n'a pas collé deux défaites en temps réglementaire de suite. Il y a eu le match, on a perdu contre Nashville, mais on a perdu contre Pittsburgh, mais contre Pittsburgh, ça a été tout un match, 6-5 en prolongation. Alors, les Oilers qui semblent vouloir se diriger là, vers une saison un peu plus à l'image de celle d'il y a deux ans qu'à celle de l'année passée.
Les Flames, eux, reçoivent l'Avalanche. L'Avalanche a un début de saison du tonnerre. Évidemment, avec le duo Rantanen, le trio complet, là, Landeskog, MacKinnon et Rantanen. Les Flames, 7-5-1, mais beaucoup de matchs joués sur la route.
Oui, les Flames qui sont une des bonnes équipes sur la route à domicile, c'est toujours on dirait que c'est toujours un peu plus difficile pour les Flames à chaque saison. Là, il y a un petit moment dans la saison où on a plus de difficultés. Cette année, ils ont emporté deux de leurs cinq matchs, une fiche de 2-2-1 à domicile. Alors là, ils vont au mois de novembre disputer un peu plus de matchs à la maison. Les choses vont pouvoir se replacer un peu. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs à Calgary qui s'établissent là-bas aussi. On est allé signer des joueurs autonomes là. Ryan Neal, entre autres, cet été. On a fait des transactions. On est allé chercher des joueurs comme Anifin, Lindholm. Ces joueurs-là doivent s'installer, s'habituer à jouer à Calgary. Ils n'ont pas été là souvent depuis le début du camp d'entraînement. Alors, on va prendre le rythme. Mais à Calgary, ça va relativement bien. L'équipe se bat pour la première place dans la division Pacifique. À part un match où on s'est fait complètement déclasser par les Penguins de Pittsburgh, le 9-1. L'équipe est dans la partie la plupart du temps. On remporte des matchs qu'on s'attendait pas nécessairement à remporter. L'équipe a bien joué contre Washington, réussi à remporter deux matchs en deux soirs cette semaine sur la route, Toronto et Buffalo. Donc, l'ambiance est assez positive du côté des Flames.
Dis-moi, en 40 secondes, est-ce que le dossier du gardien fait jaser un peu? Est-ce qu'on étire un peu l'élastique de Mike Smith? On dirait que le gardien d'avenir, c'est John Gillis, mais qui n'a pas l'air prêt. Il n'y a pas des bons chiffres dans la Ligue américaine non plus.
John Gillis, cette année, plus de 5 buts par match. Tyler Pearson, qui est un autre bon prospect des Flames, lui aussi, près de 5 buts par match dans la Ligue américaine. Donc, Mike Smith connaît pas une mauvaise saison. Là. Sa moyenne a été affectée par les 9 buts que Pittsburgh a compté. Il y en a donné 6 en 30 minutes. Ouais. Mais on a un bon gardien. On a David Rittich, qui est gardien auxiliaire, qui est un des meilleurs de la Ligue nationale cette saison dans les statistiques. Là, il a amorcé seulement 4 matchs, mais 3e pour le pourcentage d'arrêt, 5e pour la moyenne de buts alloués. Donc, on le verra peut-être un peu plus souvent. Il ne faut pas oublier que Mike Smith, c'est 36 ans, je pense. Donc, il ne rajeunit pas, mais il est encore capable. Mais on va devoir peut-être lui donner congé un peu plus souvent qu'à l'habitude. Okay. Tant que Rittich est là et qu'il fait le travail, ben, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude du côté des Flames.
Parfait. Un gros merci, Patrick. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir. Salut, Dan.
À bientôt. Patrick Henry, journaliste sportif pour Radio-Canada en Alberta.
À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital 2017. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Je vais t'en être avec vous. Je suis pas un grand fan de magasinage, mais quand j'entre dans une boutique Pentagone, je sens que c'est plus agréable qu'ailleurs. Je sens pas qu'il y a des vendeurs à pression qui ont besoin vraiment du pourcentage de vente. Je me sens pas trop harcelé. Chez Pentagone, dans la région de Québec, il y a plusieurs adresses. Promenade Beauport, Galerie Charlebourg, Place Fleur-de-Lys, Vieux-Québec, Carrefour-Charlebourg, Méga-Centre de la Rive-Sud à Saint-Romuald et Galerie Chagnon-Lévis. On ratisse large quand même. Chez Pentagone, actuellement, la marque Pentagone des pantalons pour hommes, $29,99. C'est exactement le temps de changer un peu votre garde-robe. Et les gars, je vous dis, vous allez avoir du fun à magasiner chez Pentagone. Pentagone, fièrement d'ici.
Présenté par La Capitale Assurance Générale. Tout pour les passionnés. Plus de 14 fabricants en exposition. Profitez des liquidations de vêtements et accessoires. La mode à son meilleur avec le grand défilé. Préparez vos prochaines vacances. C'est le plus grand salon de la motoneige et du quad au Québec. Du 2 au 4 novembre, Exposité.
Une collaboration du FM 93.
Qu'est-ce qu'on entend tout le temps ces temps-ci? As-tu posé tes pneus d'hiver? As-tu les nouveaux pneus d'hiver? Pneus d'hiver, pneus d'hiver, pneus d'hiver? Ben moi, j'en rajoute grâce au FM 93. Et les Canadiens Tire de la grande région de Québec, vous pourriez gagner vos pneus d'hiver.
Pour quelques jours, textez le mot « pneu » au 25226.
Vous pourriez gagner un jeu de 4 pneus d'hiver du nouveau modèle, les Winter Edge. Alors désolé, vous allez encore entendre parler de pneus.
Gagnez vos pneus grâce aux Canadiens Tire de la grande région de Québec.
Textez le mot « pneu » au 25226. Une idée du FM 93.
Grande vente pré-saison chez ADM Sport. 20% sur vêtements, pièces et accessoires motoneige quad 2019. Tournez la roue chanceuse et courez la chance de gagner votre achat. Détails sur place. ADM Sport. Boulevard Amel, Québec.
Le nouveau Strom Spa Nordique du Vieux-Québec est maintenant ouvert. Expérience thermale, massothérapie, esthétique et gastronomie. Découvrez nos offres au stromspa.com et réservez vos soins dès maintenant. Le Strom Spa Nordique, centré sur l'équilibre.
Pour une Kia à Québec, on pense à Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair. Trois concessions ouvertes le samedi pour vraiment mieux vous servir. Pour une quatrième année de suite, la qualité Kia domine le marché avec sa garantie 5 ans, 100 000 km. Une Kia, ça s'achète à Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Reconnu mondialement pour ses hommages à Genesis, The Musical Box présente Genesis, une soirée d'extravagance au Grand Théâtre. Avec ce tout nouveau spectacle de Musical Box, puis cette fois dans les classiques et les perles rares du Genesis des années 70, dont certaines pièces encore jamais jouées sur scène. Voyez The Musical Box les 4 et 5 janvier au Grand Théâtre de Québec. Billets sur grandtheatre.qc.ca. Une collaboration du FM 93.
Voici quelques conseils pour économiser. Achetez une seule brosse à dents pour toute la famille. Enlevez l'ampoule du réfrigérateur pour sauver sur l'électricité. Raccommodez vos essuie-tout. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas prix garantis. Car du 1er au 7 novembre, vous obtenez 6 boîtes de mouchoirs Royal sélectionnées pour seulement $3,77. Et les produits pour le corps et les cheveux Dove sélectionnés pour seulement $2,99 chacun. Les bas prix garantis, c'est seulement chez Uniprix. Complice de votre santé. Détails en circulaire et dans les succursales participantes.
Oh,
Non, je dois changer les pneus.
Changer les pneus de son auto stressait beaucoup Mario. Mais Point S l'a vite soulagé.
Ah.
Chez Point S, quand on vous dit qu'on installe vos pneus en une heure, on installe vos pneus en une heure.
Oh non, pas mon char neuf.
Bon, si Mario est encore stressé, c'est parce que son garçon vient d'avoir son permis.
Pour un temps limité, procurez-vous les pneus Goodyear à partir de 6,08 par mois sans intérêt et à l'achat de 4, recevez jusqu'à 100 $ en remise postale.
Pas de stress, il y a Point S.
Les conditions s'appliquent, détails à points.ca.
Les journées raccourcissent et vous donnent envie de vous évader? Faites la tournée Escapade gourmande de Resto Plaisir et courez la chance de vous envoler vers Paris avec Voyage Laurier du Vallon. En novembre, rendez-vous au Cochon Dingue, Paris Grill, Café du Monde, Jaja, Lapin Sauté ou au Ciel et choisissez nos menus thématiques regroupant les saveurs Resto Plaisir. Rendez-vous à escapadegourmande.restoplaisir.com pour plus d'informations. L'Escapade gourmande, une aventure Resto Plaisir.
Hey, 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 salut! C'est moi, l'insomnie. Ça te tente-tu qu'on parle de ton compte de carte de crédit? De quelle couleur tu veux repeindre la salle familiale? Hey, t'as brossé, l'as-tu mis dans la sécheuse, finalement? Oh, un mouton. Non, il est pas petit. C'est qui la fille qui parlait avec ton chum hier? Je t'ai dit que, oh, il reste plus de jambon pour les petits. Les poubelles, c'est demain. Non, c'est derrière le compost. Faut faire une soumission.
Pour ça peut continuer pendant des heures. Mais c'est toujours mieux de penser à tout ça à tête reposée. Pour régler vos problèmes de sommeil, essayez la nouvelle gamme Mélatonine Sommeil d'Adrien Gagnon. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
La porte est-tu bordée?
L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec. L'avant-match avec Dan Pou. En semaine de 18h à 19h au FM 93.
OK, il y a un match du Canadien ce soir. C'est donc l'occasion de faire un Dan Pou. Je veux féliciter Jérémy Bertrand, qui est notre gagnant pour mardi. Jérémy a gagné 100 $ en carte cadeau pour aller manger chez Saint-Hubert. Il a fait une prédiction parfaite. 4-1, la victoire des Stars. Si votre prénom débute par un N, comme Nathan, ou par un T, comme Tristan, vous pouvez appeler à l'instant. Alex va prendre vos prédictions et je vais les annoncer avant la fin de l'émission. Donc, N ou T, première lettre du prénom, 418-670-9330. 50 $ en carte cadeau Saint-Hubert à gagner pour une prédiction parfaite. Mon prochain invité est encore très jeune, mais il va jouer un dernier match en carrière dans la CFL samedi à Hamilton. C'est le joueur de ligne des Alouettes de Montréal, ancien du Rouge et Or, Luc Brodeur-Jourdain, qu'on joue à l'instant au téléphone. Bonsoir, Luc.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Très bien, très bien, très bien.
Comment
t'as? Je voulais juste te reprendre potentiellement un dernier match. C'est pas encore sûr, certain, mais
ouais.
Regarde, on est conscient de la réalité.
Je sais, Luc, que tu veux pas prononcer le mot retraite, mais je suis en vacances la semaine prochaine, donc je voulais te parler ce soir parce que je me disais, j'attendrai pas qu'il fasse son point de presse, j'attendrai pas qu'il ait vécu son dernier match à Hamilton. Je vais y parler avant, mais on est à un match près d'une très belle carrière pour toi dans la CFL. Tu as gagné des Coupes Grey. Est-ce que tu dis mission accomplie?
Écoute, j'ai été extrêmement choyé tôt dans ma carrière. Je suis arrivé dans une époque des Alouettes de Montréal où est-ce qu'il y avait un club qui était où le cœur des joueurs était à maturité, était vraiment dans la phase de à la fois l'apogée vers la maturité. On avait un groupe de vétérans qui était exceptionnel et qui était à une phase de leur carrière dans laquelle ils étaient prêts à partager leur expérience, qui étaient prêts à donner des conseils, puis à être ouvert, parce que, écoute, tout joueur est différent dans la Ligue, évidemment, mais on s'entend que quand t'es un jeune joueur, quand t'es à ta deuxième année, troisième année, puis qu'il y a un joueur qui est repêché, soit en première ronde, deuxième ronde, dans mon cas, c'était le dernier choix du repêchage au complet, fait que j'imagine qu'à leurs yeux, j'étais pas une grande menace, mais mais tu vois des jeunes joueurs se greffer à l'organisation et qui cherchent à se trouver du temps de jeu, qui cherchent à démontrer leur savoir-faire, et étant en milieu compétitif et étant donné qu'il n'y a aucun contrat de garantie dans la Ligue canadienne, c'est pas n'importe quelle équipe et n'importe quel genre de situation qui va te permettre d'arriver dans un groupe avec autant d'ouverture. Puis moi, j'ai été choyé d'arriver dans cet environnement-là. Puis on avait à l'époque aussi un très jeune entraîneur-chef en termes d'expérience dans la Ligue canadienne, en Mark Trestman.
Oui.
Donc on avait une équipe qui était extrêmement dynamique et puissante dans le football de la Ligue canadienne. Et je commençais ma carrière comme ça. Et évidemment, j'étais conscient même à l'époque que je vivrais une transition dans mon passage professionnel,
ouais,
au niveau du football professionnel. Je savais au préalable que éventuellement Anthony prendrait sa retraite, que Mark Trestman s'en irait. Donc
Tant pour toi que pour l'équipe, ça a été plus difficile les dernières années. Pas que tu jouais mal, mais là, t'as joué un peu moins depuis deux ans, si j'ai bien compris ton rôle. Ralenti, j'imagine, par les blessures. Mais Luc, dis-moi, est-ce que c'était difficile à imaginer pour toi, le kid qui sort du Rouge et Or, qui arrive à Montréal, vous gagnez des Coupes Grey, comme tu viens de le dire, tout le monde donne des conseils à tout le monde, ça va bien, tout le monde s'amuse. Tu fais-tu penser que 10 ans plus tard, les Alouettes allaient autant en arracher?
Écoute, si tu fais un portrait de n'importe quelle ligue professionnelle et de n'importe quelle équipe qui vit énormément de succès pendant plusieurs années et qui passe, mettons, d'un joueur clé à un joueur très important, surtout dans le monde sportif dans lequel j'évolue, dans le football professionnel,
ouais.
On passe X nombre de franchises au peigne fin, et dis-moi quelle franchise au niveau historique est parvenue de passer à la fois de perdre son... On a fait la transition au niveau de la présidence, on a fait une transition au niveau de l'entraîneur-chef,
ouais.
Et une position à la position de corps arrière. Passe au travers toutes ces transitions-là et dis-moi qui a réussi à faire la transition, peu importe les moyens, nonobstant les moyens,
ouais.
À faire la transition parfaite d'un corps arrière à l'autre, d'un entraîneur-chef à l'autre.
Je comprends.
C'est extrêmement difficile, ouais. Extrêmement difficile. Est-ce que je m'attendais à ce que ce soit difficile si longtemps? Assurément que non. Je ne pense pas. Je pensais pas que c'était pour durer si longtemps. Mais la réalité, c'est que c'est dans cet environnement-là que j'ai évolué et qu'on a continué à se battre. Puis je suis extrêmement fier des joueurs qui ont fait partie de notre organisation dans les 5 dernières années. Parce que c'est des conditions, évidemment, lorsque tu te cherches, tu es à la recherche d'un corps arrière, tu es à la recherche à la fois d'un nouvel entraîneur-chef, qu'on fasse sa transition au niveau du poste de directeur général. Donc, il y a énormément de changements qui ont eu lieu dans les 5 dernières années au sein de l'organisation, au sein du personnel de joueurs. Et écoute, on est encore à la recherche. Je pense qu'on a un bon noyau de jeunes joueurs cette année, mais c'est important de leur donner le temps de croître dans leur expérience, parce que on le sait dans le football en général, que peu importe le niveau, lorsque tu es un jeune joueur et que tu arrives avec le Rouge et Or de l'Université Laval, il est naturel que tu fasses des erreurs. C'est naturel, mais graduellement, tu prends cette expérience et tu te transformes en leader au sein de ton équipe. Et un jour, c'est à toi à montrer aux jeunes comment ça fonctionne. Mais il faut que tu aies le temps de cette évolution-là. Et des fois, ça ne revient pas dans le football professionnel. Après un an, deux ans, si ça ne fonctionne pas, on passe au prochain appel. Donc, c'est extrêmement difficile.
Luc, est-ce que tu dirais que dans l'ensemble, évidemment, je regarde ça de loin, là. Toi, tu es dans le vestiaire chaque jour depuis 10 ans. Est-ce que dans l'ensemble, tu dirais que on a sous-estimé l'après Calvillo?
Écoute, est-ce qu'on a sous-estimé l'après Calvillo? Je pense que tout le monde était au courant que ça arriverait un jour, là, que c'était pour arriver. À savoir si on pouvait préparer la chose. Écoute, j'essaie de trouver un exemple éloquent, là, mais écoute, même dans la NFL, on peut parler de la transition de Brett Favre à Aaron Rodgers. On peut passer de la transition, peut-être. On pourrait mettre
Tom Brady.
Peyton Manning à Drew Locke.
Ouais.
Tom Brady est arrivé, mais c'était tout récent qu'il y avait eu un contrat pour Drew Bledsoe.
Non, mais l'après Brady, mettons, actuellement chez les Pats.
Exactement, c'est l'après Brady. Puis, en tant qu'organisation, t'es déchiré aussi à ce niveau-là, parce qu'ils ont eu à faire un choix entre Tom Brady et Garoppolo.
Oui,
j'ai un blanc de mémoire.
Oui,
là.
C'est en plein
mais,
ça.
Ils ont eu à faire un choix déchirant. Est-ce qu'on continue à croire en notre vieux vétéran ou on le laisse partir,
ouais.
Puis on donne la chance à un jeune, puis est-ce qu'on est sûr et certain que le jeune va produire, qu'il va être prêt, qu'il va être fin prêt? C'est un autre point d'interrogation. Écoute, les Packers de Green Bay ont pris une chance, puis ça a payé, mais est-ce que cette chance-là, dans le temps, à l'époque, les 49ers ont pris cette chance-là avec Joe Montana pour...
Steve Young.
Ouais. Il faut que tu prennes une chance dans un certain sens, mais le nombre de scénarios dans lesquels ça a été un échec est beaucoup plus grand,
c'est vrai.
Je pense.
Luc, tu t'exprimes très bien. Au-delà de ta carrière de footballeur, j'ai aucune idée de ce que tu veux faire dans la vie, mais il me semble que tu deviendrais un très bon, je dirais ambassadeur à première vue, mais ça peut être un autre rôle, là, tu me corrigeras, mais il me semble que tu pourrais avoir un poste administratif, si tu le désires, évidemment, avec les Alouettes dans le futur.
Écoute, si ça survient, c'est sûr que bon, je vais avoir l'oreille tout oui pour je vais être à l'écoute du club. Okay. Mais quand en ce qui a trait à mon implication au sein de l'organisation puis des Alouettes de Montréal, je pense que j'ai même pas besoin d'être rémunéré à long terme. Je vais toujours rester dans le giron, puis je vais toujours être présent. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, puis c'est quelque chose en quoi je crois. J'ai eu la chance de commencer mon football au Québec et de le terminer au Québec. Puis pour moi, c'est un privilège que le sport va m'avoir apporté d'avoir pu évoluer uniquement au Québec, dans ma patrie, dans mon coin, dans mon monde. Puis j'en tire une très, très grande fierté. Et il y a tellement de belles choses au travers de ce sport-là. Puis au niveau de la vie en général, tout ce que ça peut t'apporter, en dehors même du sport, ça t'apporte pour la vie en général. Donc, je suis un ambassadeur de mon sport, puis je vais continuer à être passionné par ce sport-là tout au long de ma vie.
Absolument, ça paraît, puis tu le fais très bien. Gros merci de nous avoir parlé. Très apprécié, Luc. Bonne soirée à toi.
Ça me fait plaisir. Bonne soirée.
Et bon dernier match potentiel samedi.
Hey, merci beaucoup.
Salut à toi. Luc Brodeur-Jourdain. Samedi à Hamilton, qui vraisemblablement va jouer un dernier match en carrière dans la CFL. Nelson a pris 3-2 Canadien, Taha 4-2 Canadien, Nicolas 6-4 Canadien, Nathan 4-2 Washington et Nicole 5-3 Washington. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de la